Dervi Lvagaram. Urbain Z, un jeune homme blond, s'élançait hier, 3 heures sonnant, hors d'une Victoria de louage, arrêté soudain devant l'une des premières maisons de la rue Fontaine. On lui dit qu'il avait 1 kilo de picrate de potasse dans le corps. Rapide, il gravit 2 étages et s'arrêta devant, sur le palier du 3e, en face de la porte de gauche. Son regard fut attiré par une carte clouée sur le panneau supérieur. On y lisait ces simples mots tracés à l'encre rouge. Inutile de sonner, je lis des vers. Qui que tu sois, va-t'en. Urbain Z, sans tenir compte de cet aimable avertissement, tira fougueusement le cordon de la sonnette. La réponse fut longtemps attendue. Urbain Z réitéra son carillon. « Ah, oh, c'est toi !» s'écria Gaston P., jeune homme brun, entrebâillant enfin sa poterne close. « Que diable veux-tu? T'as-tu pas lu ma petite affiche ?»« Si, reprit haletant Urbain Z, mais j'avais absolument besoin de te revoir, de te parler. » Et entre, mon ami, entre, mon brave. Tu es rouge d'un côté et pâle de l'autre, oh, mon ami. C'est donc bien grave ? Grave, soupira Urbain Z. Lorsqu'il fut assis dans le cabinet de Gaston P., les verrous déjà étaient devant en tirer. Oui, oui, très grave. Un duel ? Oh, j'ai de fort bonnes épées. Non, non, pas un duel. Il s'agit de Madame de M. Oh, vous êtes fâché. L'air solennel de la rupture a retenti. Eh oui. Oh, si bien cela traînait depuis un mois, mais enfin, j'ai le cœur brisé. C'est ce que dit Henry Heine. Non, non, mais merci, pas de citation, si cela ne te gêne pas. Tu as le cœur brisé, bon, c'est convenu. Tu viens chercher un peu de baume ici, n'est-ce pas ? Du baume, dis. Alors, conte-moi la petite histoire, tout de suite. Je vais préparer mon élixir en t'écoutant. Eh bien, mon ami, Madame de M m'a donné son congé. Dans les 8 jours ? Oui, et je suis désespéré. Mon amour s'est réveillé encore plus vivace, plus ardent. Mais c'est bien fini. Et bien fait. Fallait pas ouvrir la cage, mon vieux. On a repris sa liberté. Mais par ma faute. Ma faute. Tu dis, je dis, mais allez, raconte. Eh bien voilà. Je te l'ai dit tout à l'heure, notre liaison montrait la corde depuis un mois. Mais avec du soin, on aurait pu. Oh, quelle bêtise j'ai faite ! Bon, c'est entendu, mais fais-moi un croquis de cette bêtise, je t'en prie, Urbain. Bien, il y a 15 jours, un soir que nous prenions le thé chez elle, son mari était au gymnase Paz, où il se régénère sans cesse, dit-il. Oui, un joli blagueur. Soit, donc nous prenions le thé, on causait de choses diverses et d'autres. Mauvais signe en amour. Cela ressemblait à 10 ans de ménage. Et tout à coup, elle se mit à rire. Qu'avez-vous, madame? Lui dis-je, étonné. Oh, rien. Non, pardonnez-moi, ma chère. Pourquoi, qu'avez-vous à rire? Je pense, répliqua-t-elle, à cette lettre que j'ai reçue aujourd'hui de Clémence. Elle est folle en vérité. Folle? Interrogeai-je. Oui, ma parole. Mais quelle sorte de folie! Ah, oh, vous êtes trop curieux! En effet, je suis trop curieux. Et j'insistais pour lire la lettre de cette Clémence. Elle me l'abandonna. La voici. Veux-tu que je te la lise? Il faut bien. Mais je vais allumer un simple billet d'annonce, le viatique de l'auditeur. Oh, allez, la lettre de Clémence. J'ai le vague à l'âme, mon ami. Un sentiment indéfinissable remplit mon pauvre être. Je ne suis pas un ange déchu, et pourtant je me souviens des cieux par instant. Je rêve d'ineffables et longs amours, si de la terre. Oh, je n'ai pas la fausse modestie. Je me sais belle, digne d'être aimée. Mais sentir que je suis seulement désiré, ô mon ami, figure-toi l'étrange tourment qu'éprouverait un ange égaré sur la terre, cherchant l'âme qui répondrait aux voix délicates de son âme, et à qui sa tournure charmante, provocante, hélas, assurait les compliments plus que brûlants. Quelle torture! Et moi, je ne suis pas une créature céleste, mon ami. Je suis une femme aussi. Ces phrases que mon oreille de femme entend, je les comprends. Et elles me blessent cruellement. Quel homme est vil et grossier. Il ne sait pas voir au-dessous de l'enveloppe. C'est un voyageur qui s'arrête au premier village un peu gai sur sa route, s'y établit, y mange, y boit, y dort, et oublie les pays inconnus après lesquels il aspirait et qu'il était allé découvrir. Oh, l'amour, l'amour pur de deux pensées, le vol parallèle et candide de deux âmes, deux cœurs cherchant de conserve et marchant sur les eaux bleues de l'idéal. Voilà l'amour comme je l'entends. Mais où trouver l'homme dont les sens se contenteront de ce bonheur presque divin? Il n'y en a pas sur la terre. As-tu jamais rencontré celui-là de qui je parle, brisé, oh, mon ami, non. Si j'écris ces lignes absurdes, ma charmante, c'est que le vague à l'âme que je ressens m'oppresse, m'étouffe. Il faut que je me soulage. Je souffre. Tiens, mardi, par habitude, j'ai dîné seul au restaurant. Je sortais de Petit Cercle d'Allée, mon magasin prédilection, et je venais d'acheter quelques babioles et j'étais en retard. Alors je ne sais pas pourquoi, je ne suis pas rentré à la maison. Donc, je dînais seul. Et en face de moi, deux amoureux mangeaient, le ciel dans les yeux et dans le cœur. Ils étaient gais, gentils comme tout. Le dîner était une joie pour eux. Ils se partageaient les plats, riaient, se taquinaient. Et personne à part moi ne les regardait. Ils ne regardaient personne. Ces deux gamins m'ont mis le cœur à l'envers. Ils m'ont sauté ma faim. Alors je suis sorti. Mais quelle chute! Dans les rues, comme je passais, le voile baissé et rêvant à des affections surhumaines, irréalisables sur ce globe vicieux, des hommes pleins d'audace me suivaient sans vergogne et leurs lèvres me soufflaient des paroles corrosives à l'oreille. Je marchais vite, mais je les entendais. Quoi qu'honnête femme qu'on soit, on rumine machinalement ce qu'on entend. Oh la famille, mais pourquoi suis-je créé tel que je suis de corps quand mon âme est si naïve? Est-ce donc ma punition? Mais qu'ai-je fait? Je suis modeste et silencieuse, cherchant l'ombre. Et tout ce que je récolte, ce sont des madrigaux pimentés. Cela me tue. Mon horreur de la vie. J'ai horreur. Oh, saison affreuse. Que de larmes tu me fais versé en secret. Quel sort! Concevoir des fleurs et découvrir en les cueillant le fumet qui les nourrit. Puis-je t'ennuie, Marianne? Pardonne-moi ma longue souffrance et sois toujours heureuse. Tu aimes, tu es aimée, toi, ta Clémence, ta pauvre Clémence. C'est tout? « Pas de post-scriptum ?» demanda Gaston P. « Non. Alors, la suite. » Donc, je lus cette lettre et mon paradis tout neuf, abondamment pourvu de fruits excessivement défendus, se montra tout à coup devant mes yeux fatigués. oubliant Marianne qui lisait le journal pendant que je parcourais à plusieurs reprises la lettre de la douce et tendre Clémence, je me mis à réfléchir. Ah oui, le vélocipède des rêves t'emporta. Oui, tu l'as dit. Et je pensais que Marianne était bien imprudente. Il fallait qu'elle se croie bien amenée dans les eaux calmes de mon cœur pour lui avoir confié à la lecture de cette lettre de confidence de son ami. Mais cela me vexa. Je me sentis petit garçon devant elle. Enfin, ne se gênait pas assez pour Hercule. Mon pauvre orgueil dressa sa petite tête de serpent. Et quand je rompis le silence, ce fut d'une voix grave et d'un air de révolté. Bon, j'ai fini, mon ami. Je rentrai chez moi, amoureux de Clémence, de cette délicate inconnue, de cette sensitive oubliée par l'homme aveugle. Et tu devines l'épilogue de ce roman éternel. Au bout de 8 jours, j'étais parvenu à glisser une déclaration angélique congruente à la position à cette Clémence immatérielle. Mais, ô revers inattendu, ô surprise foudroyante, ce fut Marianne qui me répondit. Elle savait tout et me disait, elle savait tout et elle me rendait ma liberté. Je ne veux pas de rival, ajoutait-elle. Et de là, scène, pleurs et grincements de dents. Tom, tu devais t'y attendre. Les amis ne se fâcheront pas, non, non. Mais Clémence. Clémence me renvoya ma lettre et me fit défendre sa porte. Elle ne comprenait pas mon audace. Son étonnement n'avait d'égal que son immense profonde pitié. Oh, je te crois bien qu'elle ne le comprenait pas. Mais que veux-tu dire? Je veux dire, ajouta Gaston P., riant aux éclats, qu'elle était bien dans son droit en manifestant sa surprise. Et pourquoi? Parce que... Au fait, je vais t'expliquer tout ça. Ça ne va pas être long. Gaston P., prenant un portefeuille rouge sur sa table, l'ouvrit et tira d'une poche un papier qu'il déplia sous les yeux de Urbain Z. « Lis !» dit-il. Urbain lut précipitamment les premiers mots. « J'ai du vague à l'âme, mon ami. » Et il courut à la signature. « Ta Clémence, ta pauvre Clémence !» s'écria-t-il. « Mais c'est ma lettre !» Parbleu, je m'en doutais. C'est une circulaire. Nous avons chacun une épreuve. Et moi, pour te chercher, cher ami, moi aussi j'ai été. Oh, je sais, j'avais repris ton rôle dans l'amour, comédie en quelques actes dont Marianne est l'auteur. Elle me l'avait dit. Bon, oui, j'ai été l'amant de Madame de M, dit-il. Elle m'avait fait lire aussi cette lettre que Clémence lui avait écrite et j'ai adoré Clémence, comme toi. Pauvre Clémence, mais trible Bélisaire, c'est Marianne qui a composé cette lettre-là. Ne vois-tu pas? C'était un moyen de rompre avec les honneurs de la guerre. Elle devient une victime qui se venge. Elle se crée une rivale et en triomphe en nous mettant à la porte. Oh, la Circé, parbleu, et qui change joliment les petits crevés comme nous en bêtes énormes. Mais le moyen s'usera. Nous avons les lettres, on peut les communiquer. Bon, non, elle trouvera bien d'autres tours. Si le diable lui prête vie.